VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du 1er septembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Élection présidentielle aujourd'hui en Gambie. Pas totalement jouée d'avance cette fois-ci pour Yahya Jammeh, au pouvoir depuis plus de deux décennies.
Au Soudan, la police anti-émeute a usé hier de gaz lacrymogène pour disperser des manifestations contre la réduction des subventions sur le carburant.
Au Zimbabwe, la police a de nouveau violemment réprimé hier à Harare une manifestation contre la mise en circulation d'une nouvelle monnaie.
L'OPEP a trouvé un accord pour réduire la production pétrolière de ses membres.
Journée mondiale de lutte contre le sida, aujourd'hui 1er décembre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Gambie, le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, se présente aujourd'hui pour la première fois à une élection qui ne paraît pas totalement jouée d'avance face au candidat d'une large coalition d'opposition, Adama Barrow. Il y a un troisième candidat en lice, Mama Kande, ancien député du parti au pouvoir qui représente une nouvelle formation. Il s'agit d'un scrutin à un tour pour un mandat de 5 ans. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi. À l'approche de l'élection, les télécommunications sont perturbées. Depuis mercredi soir vers 20h, l'Internet était coupé et les appels à l'international et envoi de SMS n'étaient plus possibles, a constaté l'AFP.
Le chef de l'ex-junte malienne, Amadou Sanogo, a comparu mercredi à l'ouverture de son procès pour implication dans l'assassinat de militaires en 2012, l'une des pages les plus sombres du putsch qui a précipité le pays dans le chaos. Le procès délocalisé à Sikasso a été ajourné à vendredi. À la demande de la défense, a annoncé le président de la cour d'assises. Les 17 prévenus, tous militaires, dont les généraux Yamoussa Kamara, ancien ministre de la Défense, et Dayuru Dembélé, ex-chef d'état-major, sont jugés pour enlèvement et assassinat, complicité d'enlèvement et d'assassinat de parachutistes, dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en décembre 2013, près de Kati, où se trouvait le quartier général de Sanogo.
Le Burkina Faso veut mener une insurrection contre la pauvreté et il va le faire grâce à un plan de développement de 23,5 milliards d'euros sur 5 ans, a expliqué son Premier ministre Paul Kaba Tieba dans une interview avec l'AFP. Parlant de ce plan national de développement économique et social, il a dit « Nous avons réussi l'insurrection populaire, allusion à celle qui a mis fin en 2014 à 27 ans de règne du régime du président Blaise Compaoré. Nous avons résisté victorieusement à la tentative de coup d'État, autre allusion au putsch avorté de l'ex-garde prétorienne du président Compaoré en septembre 2015. Il reste une insurrection à gagner, c'est l'insurrection contre la pauvreté », a déclaré le Premier ministre burkinabé.
Au Soudan, la police anti-émeute a usé hier de gaz lacrymogène pour disperser des manifestations d'avocats et de journalistes contre la réduction des subventions sur le carburant. Précision de John Linden.
Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le Soudan contre la hausse de 30% des prix du pétrole et du diesel et la dépréciation de la lire soudanaise qui ont eu comme effet une augmentation du prix de nombreux produits, notamment des médicaments. Environ 450 personnes ont manifesté près de Khartoum, dont 150 avocats devant la Haute Cour de justice. La police anti-émeute est intervenue rapidement pour les disperser au gaz lacrymogène. Les manifestations d'hier ont eu lieu alors qu'une grève nationale de 3 jours a été organisée entre dimanche et mardi à l'appel des groupes d'opposition. Les autorités tentaient d'étouffer ces manifestations. Plus d'une dizaine de responsables de l'opposition ont été arrêtés ces dernières semaines. Les autorités ont ordonné la saisie de plusieurs journaux et la suspension d'une chaîne de télévision privée qui avait diffusé les appels des opposants à manifester contre la hausse des prix.
Au Zimbabwe, la police a de nouveau violemment réprimé hier à Harare une manifestation contre la mise en circulation d'une nouvelle monnaie qui a fait ressurgir dans la population le spectre de l'hyperinflation des années 2000. Détail de Nalit Talani.
Une centaine de partisans du principal parti d'opposition du Mouvement pour le changement démocratique et de Tajamouka, un mouvement anti-Mugabe, sont descendus dans les rues d'Harare pour dénoncer cette mesure. Billets d'obligation égale papier toilette. Pas de billets d'obligation, pouvait-on lire sur les affiches des manifestants. Mais le rassemblement a tourné court. La police est rapidement intervenue pour les disperser avec du gaz lacrymogène, des canons à eau et à coups de matraque. Pour Hadlaf Mudingwa, porte-parole de Tajamouka, cette nouvelle monnaie ne va pas résoudre le problème de manque de liquidité. Le Zimbabwe, qui avait abandonné sa devise nationale en 2009 au profit des devises étrangères, a mis lundi sur le marché une nouvelle monnaie pour pallier au manque criant de liquidité qui asphyxie l'économie. Mais ces nouveaux billets ont suscité un vent de panique au sein de la population.
La Tunisie a reçu des promesses d'aide financière et d'investissement s'élevant à environ 15 milliards de dollars pendant la conférence organisée ces deux derniers jours à Tunis, a annoncé hier le premier ministre tunisien. Youssef Chahed a précisé que des contrats d'une valeur de 15 milliards de dinars avaient déjà été signés et que 19 milliards de dinars supplémentaires avaient été promis sous forme d'aide financière.
Le Maroc a dénoncé hier les manœuvres de la présidente de la Commission de l'Union africaine visant, dit-il, à faire obstruction à son retour au sein de l'organisation africaine. Éric Manirakiza.
Dans un virulent communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères accuse la sud-africaine Consazana Dlamini Zuma de tenter de contrarier la décision du Maroc de retrouver sa place naturelle dans la famille panafricaine. Elle est accusée d'avoir retardé la diffusion de la demande marocaine de poursuivre maintenant son élan d'obstruction en contradiction avec son devoir de neutralité. Le roi Mohamed VI souhaite le retour au plus vite de son pays au sein de l'Union africaine. Rabat avait claqué la porte en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique. Ce retour doit être validé par un vote des États membres à la majorité des deux tiers, soit 36 pays. L'Union africaine doit tenir son sommet début 2017 à Addis Abeba. C'est donc le début des grandes manœuvres avec en toile de fond la question du Sahara occidentale, ancienne colonie espagnole, dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance.
Journée mondiale de lutte contre le sida, aujourd'hui 1er décembre. À cette occasion, signalons qu'hier, en Afrique du Sud, les premiers volontaires ont reçu l'injection d'un vaccin expérimental contre le sida. Les chercheurs espèrent que le taux d'efficacité de leur vaccin prototype atteindra au moins le seuil de 50%. Il sera testé pendant les 4 prochaines années sur 5400 hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés du monde par le VIH avec un taux de prévalence de 19,2%.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, est attendu jeudi à Indianapolis, dans une usine du fabricant de climatiseurs Carrier, symbole de la politique anti-délocalisation qu'il entend mener grâce à ses ministres du Trésor et du Commerce, fraîchement nommés la veille. Selon son entourage, il n'y aura pas de nouvelles nominations cette semaine, alors que celle du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense semblait imminente. Pour son chef de la diplomatie, Donald Trump hésite entre le républicain modéré Mitt Romney, l'ancien patron de la CIA David Petraeus, le sénateur républicain Bob Corker et l'ancien maire de New York Rudy Giuliani.
En Syrie, a averti un responsable de l'ONU, Alep risque de se transformer en un gigantesque cimetière après la fuite de 50 000 personnes des quartiers rebelles assiégés, terrifiés par les combats et les bombardements menés par le régime. La principale coalition de l'opposition syrienne a réclamé à l'ONU des mesures immédiates pour protéger les civils d'Alep Est. Mais une réunion d'urgence du Conseil de sécurité s'est achevée hier sans résultat. Nouvelle preuve de l'impuissance de la communauté internationale face au conflit syrien.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a trouvé un accord pour réduire la production pétrolière de ses membres. Elle sera limitée à 1 200 000 barils par jour. L'accord a été annoncé hier à l'issue d'une réunion à Vienne. La Russie, qui n'est pas membre de l'OPEP, a aussi promis de réduire de moitié sa production. Abdourahmane Dia.
Les pays de l'OPEP, frappés de plein fouet par la chute des cours du brut, essaient depuis plus de 2 ans de s'accorder sur une réduction de leur production. C'est désormais chose faite. Les 14 pays membres espèrent que leur accord permettra une remontée substantielle des cours du pétrole. Dans la foulée, la Russie, qui n'est pas membre de l'OPEP, a aussi annoncé qu'elle va réduire de moitié sa production de 600 000 à 300 000 barils par jour. Toutefois, le ministre russe du pétrole précise que cela dépendrait des capacités techniques et se ferait par étapes. Moscou indique que sa décision est pour aider à atteindre le plafond de 32,5 millions de barils par jour. L'accord devrait redonner de l'énergie à un secteur déprimé, à condition qu'il soit respecté. Rien n'est moins sûr, car aucune sanction n'est prévue contre ceux qui vont tricher pour vendre plus de pétrole.
En Haïti, la police a barré la route hier à plusieurs centaines de manifestants qui contestaient les résultats électoraux donnant Jovenel Moïse vainqueur de la présidentielle. Il tentait de se rendre à Pétionville, commune aisée de la banlieue de Port-au-Prince, favorable à M. Moïse. Les manifestants ont alors multiplié les jets de pierres en direction des policiers qui ont riposté avec des grenades lacrymogènes et usé d'un camion équipé d'un canon à eau irritante.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Les 14 États membres de l'OPEP ont décidé de réduire leur production de pétrole dans l'espoir de faire remonter les prix de l'or noir. Une première pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole depuis 2008. L'accord entrera en vigueur le 1er janvier et fera passer la production de l'OPEP à 32,5 millions de barils par jour, soit une baisse de 1,2 million de barils par jour. Et c'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire, elle, double sa production. Le gouvernement parle désormais de 45 000 barils par jour. Cette augmentation est due à l'exploitation de nouveaux champs. Par ailleurs, la production de gaz avoisine 235 millions de pieds cubiques par jour, soit une hausse de 4,20% par rapport à 2015. Et puis, la Tunisie qualifie de succès la conférence internationale des investisseurs qu'elle a accueillie durant deux jours, affirmant avoir atteint 14 milliards d'euros en accords et promesses d'aide financière.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Drissa.
Le Mali en finale de tournoi de l'UEMOA au Togo.
Les derniers matchs du groupe A, la Côte d'Ivoire battue par le Mali 1-0 et le Niger qui domine le Togo 2-1 au stade municipal. On fait le point tout de suite avec Élisée Oumpatine.
Qui du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso sera l'adversaire du Mali en finale de cette compétition samedi prochain? Le verdict du groupe B sera connu ce jeudi au stade de Kégué. Les Lions de la Teranga, bien placés avec 4 points, vont jouer la Guinée-Bissau qui a 3 points et qui aura forcément besoin d'une victoire avant de se qualifier. Au même moment, au stade municipal, les étalons eux aussi doivent battre les écureuils du Bénin déjà éliminés et espérer au même moment un faux pas du Sénégal pour pouvoir défendre leur trophée. Sénégal-Guinée-Bissau et Burkina Faso-Bénin, des duels à distance qui s'annoncent donc explosifs et riches en suspense pour une place en finale. Boycon, Élisée Rumpati, VOA Afrique.
Diafra Sarho s'est à nouveau blessé en Angleterre.
Oui, l'attaquant sénégalais s'est à nouveau blessé en championnat avec West Ham United. Il manquera vraisemblablement plusieurs semaines, à commencer par le match hier contre Manchester United en Coupe de la Ligue. À noter que Sarho revenait tout juste d'une longue blessure qui lui avait fait manquer le début de saison avec West Ham.
Gareth Southgate prolongé 4 ans comme sélectionneur de l'équipe d'Angleterre.
La fédération anglaise a annoncé hier avoir choisi de maintenir Gareth Southgate comme sélectionneur. Nommé en septembre après la démission forcée de Sam Allardyce, Southgate devait assurer un intérim de 4 matchs jusqu'au 15 novembre et voici son bilan. Une victoire bruyante contre Malte 2-0, un nul en Slovénie et un succès convaincant contre l'Écosse 3-0 en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. A noter également le match nul 2-2 contre l'Espagne en amical. L'objectif pour Southgate est clair, se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020. Allez, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit, Boston, 121-114, Memphis, Toronto, 105-120, Los Angeles Lakers, Chicago, 96-90, Washington, Oklahoma City, 115-126, New York Knicks, Minnesota, 106-104, San Antonio, Dallas, 94-87, Miami Denver 106-98, Atlanta Phoenix 107-109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Gambiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, aura comme principal adversaire l'homme d'affaires Adama Barrow, soutenu par 9 partis d'opposition. La CDAO et l'Union européenne n'ont pas envoyé d'observateurs alors que l'Union africaine a déployé une mission à Banjul. Cette élection peut-elle changer la donne en Gambie? Au micro d'Abdourahmane Dia, quelques éléments de réponse avec Fatouyane Senghor de l'ONG Article 19.
Ce qui est sûr, le changement est déjà intervenu. Changement intervenu dans le sens où, pour la première fois, les partis les plus importants de l'opposition se sont mis ensemble. Je pense que c'est une symbolique importante. L'autre chose, je pense que la peur s'est beaucoup amenuisée. On a vu que les populations, quand même, sont sorties en masse pour soutenir la coalition. Et je pense que c'est important dans un pays comme la Gambie où l'expression est bâillonnée, où l'opposition n'avait que peu d'espace pour s'exprimer, de voir toutes ces foules sortir avec l'espoir de vouloir changer avec leur carte la donne. Nous espérons seulement que le verdict des urnes sera respecté.
Des modifications ont été apportées pour éviter, dit-on, la fraude. Par exemple, le décompte se fera sur place. Est-ce qu'on peut compter sur un scrutin transparent cette fois-ci?
Il est difficile de le dire parce que, vous savez, les gages de scrutin transparent sont multiformes. D'abord, la présence d'observateurs indépendants et, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, la plupart des observateurs indépendants crédibles ne participeront pas à ce processus. Le consensus qu'on attendait, que la commission électorale allait en fait essayer de bâtir avec les différentes parties prenantes, ce consensus n'a jamais eu lieu. Il y a beaucoup d'unilatéralisme autour de tout ce processus. Le fichier électoral n'est pas un fichier consensuel. Il y a eu des rumeurs d'enregistrement en faveur du parti au pouvoir au-delà des délais. Et aujourd'hui, l'opposition n'a pas une visibilité claire, une visibilité sur ce fichier. Les signaux sont très rouges. Nous sommes très inquiets par rapport à des possibilités de violence. Mais nous espérons que le verdict du peuple sera respecté.
C'était Fatou Diagne Senghor de l'ONG Article 19. Au Tchad, le collectif Justice ou Rien appelle les Tchadiens à se mobiliser aujourd'hui, jour anniversaire de l'accession au pouvoir d'Idriss Déby. Au micro d'Anastasie Toudiech, les explications du porte-parole de cette coalition, Éric Hervé Pando.
Nous nous protestons contre l'injustice, contre la malgouvernance, contre la dissolution de la justice, de l'appel judiciaire dans l'exécutif, contre les enlèvements, les séquestrations, contre les traites de leaders d'opinion, contre la discrimination dans la traitance des Tchadiens par le chef de l'État, contre la famine, contre le non-paiement des salaires des fonctionnaires. Nous protestons contre les conditions de détention dans les prisons, contre la corruption, contre la promotion des cancres dans ce pays.
Pourquoi avoir choisi la date du 1er décembre?
On nous a fait comprendre que la date du 1er décembre est l'avènement de la démocratie. On se retrouve avec le contraire, c'est-à-dire c'est l'étranglement de la démocratie dont on nous parlait dès les premières heures de l'avènement du MPS au pouvoir. Pas la démocratie. On nous a parlé de la liberté. On se rend compte qu'il n'y a pas la liberté d'expression.
Qu'attendez-vous de cette mobilisation, de ce rassemblement, M. Pando?
Une interrogation, c'est une interpellation. On interpelle le gouvernement à changer sa méthodologie de guerre.
Justement, si rien n'a bougé après 3 jours de grève de la faim, qu'est-ce qui vous fait penser que cette mobilisation fera bouger les lignes?
C'est une panoplie d'activités. Si jamais la journée de demain ne chancelle pas nos autorités, on va passer les étapes, elles sont graduelles, les actions sont graduelles. Ce n'est pas la méthodologie ancienne des rédactions de communiqués de presse, d'organiser des conférences de presse. D'autres actions de grande envergure vont suivre encore, si jamais le problème de nos compatriotes ne sont pas solutionnés.
C'était Eric Hervé Pando, porte-parole du collectif tchadien Justice ou Rien.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, notre correspondant au Congo-Brazzaville nous signale que les personnes vivant avec le VIH manquent de médicaments. Elles vivent de longues périodes de rupture des ARV. Si certains patients peuvent se partager le traitement, d'autres voient leur état de santé se détériorer. Les autorités ont sanctionné 5 directeurs généraux censés assurer la fourniture des ARV. De Brazzaville, reportage de Nguela Ngoussou.
Je m'occupe de PTME, donc il y a plein de femmes qui viennent pour se plaindre. Moi, je suis en gestation, je n'ai pas de médicaments, je ne sais pas comment faire. On est obligé de remonter le moral à ces personnes-là parce qu'il n'y a pas de médicaments.
Ce cri de désespoir de femmes enceintes vivant avec le VIH-Sida aurait aussi pu être lancé par les quelques 14 000 personnes sous traitement au Congo. Les centres de traitement manquent des médicaments. Les malades du Sida sont obligés de se partager leur propre traitement, au risque même de leur vie. Témoignage de Irène Maungu, une mère séropositive.
Entre nous les malades, on se comprend, on peut partager le traitement. Et la personne, je ne peux pas la dire que le traitement n'est pas là, il faut supporter parce qu'en elle, ça joue beaucoup déjà psychologiquement. Elle est habituée parce qu'on l'a dit que si tu prends le traitement, tu vivras longtemps. Mais quand on ne la donne plus le traitement, c'est difficile pour la personne. Elle trouve qu'on dirait que la mort est là seulement derrière la maison. Il y a des impacts sur la peau, il y a des impacts dans le corps, le moral. La personne est affectée. Donc c'est ce qui nous fait vraiment très mal. C'est pour cela on veut à ce que le traitement puisse redevenir comme avant.
Écœurées par cette rupture récurrente des ARV au Congo, 28 associations des séropositives regroupées dans un réseau national, le RENAPC, manifestent depuis quelques jours. Elles réclament la disponibilité des ARV au moins pour les 6 mois à venir. Jean-Pierre Maungu est le directeur exécutif du RENAPC.
6 mois de stock des ARV en stock initial, 3 mois de stock de sécurité et tous les 3 mois qu'on lance une commande parce que ces produits-là se fabriquent par commande. Et comme une crise de confiance entre les malades et les centres de prise en charge. Parce que vous arrivez, il n'y a pas le médicament.
Dans le pays, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer cette situation. Inès Mvukani est responsable juridique du comptoir juridique junior du Congo.
Je pense que là, c'est une situation grave qui nécessite une réflexion de chaque partie engagée justement dans le processus de distribution et d'obtention des ARV en vue de permettre une disponibilité permanente des ARV en République du Congo.
Les autorités ont opté pour l'économie de la parole. La coordination du Conseil national de lutte contre le sida a quasiment reçu des consignes fermes du ministère de la Santé pour ne pas s'exprimer sur la question. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a finalement lancé un appel d'offres pour l'acquisition de quelques 10 000 lots des ARV et autres réactifs. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
On attire de nouveau l'attention sur les Africaines et autres étrangères qui travaillent comme femmes de ménage dans les pays du Golfe, où on n'hésite pas souvent à utiliser le mot « esclavage » pour décrire leur sort. C'est le cas pour de jeunes Togolaises, dont une est décédée en octobre dernier au Liban, relançant ainsi le débat sur les conditions de vie et de travail de ces jeunes femmes. Reportage de notre correspondante à Lomé Kayi Lawson.
J'étais au Liban, mais c'est pas facile quand même. J'ai fait Liban, Koweït, mais le Koweït, c'est plus dur. C'est le travail, esclavage.
Cette jeune dame que nous allons appeler Halima est une Togolaise de 27 ans. Elle est rentrée du Koweït il y a 5 mois. À la recherche d'un mieux-être, Halima a pris la décision d'aller dans les pays du Golfe où elle a eu à exercer comme femme de ménage pendant près de 4 ans, d'abord au Liban, puis au Koweït. Pour un salaire moyen de 100 000 francs CFA, Alima travaille entre 15h et 20h par jour. Des conditions de travail exécrables, doublées de maltraitance et de menaces d'emprisonnement. Témoignage.
Quand j'étais au Liban, je me lève à 6 ou 7 heures, à minuit, comme ça, je dors. Mais quand j'étais au Koweït, des fois, je dors à 4 heures du matin. Au Koweït, j'ai fait 3 mois sans prendre mon salaire. Maintenant, je réclame mon salaire. Et mes patrons allaient mentir à la police que j'ai frappé leur enfant. Et les policiers sont venus à la maison pour m'arrêter. Ils m'ont frappé, ils m'ont amené à la police et ils m'ont fermé en même temps. Ils m'ont rien payé. Maintenant, ils m'ont pris pour aller vendre à un autre dame encore. Là, ces enfants veulent me violer. Quand je dors, ils rentrent dans la chambre pour venir coucher avec moi.
Alima a eu de la chance pour revenir au Togo, estime le comité de réflexion et d'action pour la promotion des droits de l'homme, CRAF. Selon Dossé Sorher, président du CRAF, les Togolaises sont devenues des esclaves dans des pays du Golfe où elles travaillent pendant des années sans salaire.
C'est l'esclavage moderne. Le cas qui se passe habituellement, c'est que lorsque vous signez un contrat de 2 ans ou 3 ans avec votre patronne, le contrat stipule qu'à la fin, on rassemble tous les salaires pour vous payer. Mais à l'approche de l'échéance, 5 mois ou 3 mois par exemple, on vous accuse de vol et on vous amène à la police pour vous arrêter juste pour se soustraire de l'obligation qui la contraint à pouvoir vous payer le cumul de salaire.
Le 17 octobre dernier, la jeune Togolaise Amélie Sizing est décédée au Liban. Une mort dont les parents ignorent la cause. Ayaba Sizing est le grand frère de feu Amélie Sizing.
La famille Sizing ne connaît pas l'origine de sa mort, mais elle le connaît quand même, avoir reçu des appels de leur fille, qu'elle a été menacée par son patron pour la simple raison qu'elle réclamait son droit. Le contrat qu'ils avaient signé était déjà épuisé et qu'elle devait entrer en possession de ses droits. Donc c'était au cours de la réclamation de ses droits-là que les menaces ont commencé, où elle a pu quand même s'échapper. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital par la Croix-Rouge qui devait la soigner. Et un jour, la famille a reçu un appel de la part d'un blanc qui leur disait que leur fille était en traitement et quand tout ira bien, on l'enverra au pays. Malheureusement pour nous, un jour, on apprend que c'est comme ça, notre sœur ne vit plus.
Pour le mouvement Martin Luther King qui a fait de ce sujet une de ses priorités, c'est une mort de trop. Pasteur Edo Kwame, président de ce mouvement, interpelle les députés et toute la population togolaise.
Le mouvement Martin Luther King a demandé aux parlementaires togolais d'interpeller le ministre des Affaires étrangères pour que ce dernier puisse situer l'opinion sur le sujet. De ce ministre, nous attendons d'abord une mission diplomatique dans la zone pour recenser les Togolaises qui sont dans ces situations-là et puis procéder à un rapatriement volontaire. Aussi, nous avons demandé à ce que les produits libanais soient boycottés au Togo.
Pour rappel, depuis plus de 2 ans, le gouvernement togolais a interdit le voyage des jeunes filles au départ de l'aéroport de Lomé vers le Moyen-Orient pour des travaux domestiques. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'influence de Fidel Castro sur l'Afrique après la récente disparition de l'ancien président cubain. Héros pour certains, mais dictateur pour d'autres. Le père de la révolution cubaine est connu pour avoir soutenu des luttes de libération sur le continent africain, particulièrement en Afrique australe. Que pensez-vous de son impact sur l'Afrique? Le rapprochement États-Unis-Cuba prendra-t-il d'autres tournures avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.